BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, tout le monde vous a saoulé avec la pluie cette semaine. Alors déjà, quand il pleut, c'est pénible. Alors quand les gens parlent que de pluie, c'est encore plus pénible. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Alors, pourquoi exceptionnelle, vous allez me dire? Il dit ça chaque semaine. Ben non, parce que cette semaine, on va décortiquer ensemble, décrypter ensemble tous les événements qui ont marqué cette semaine. Une semaine riche en événements sur l'économie, la finance, vos placements et votre argent. Et on va se projeter sur les semaines qui viennent. Alors, on a un sommaire chargé aujourd'hui. Le mot de la semaine, c'est évidemment, enfin je dis évidemment, mais c'est dette. On va parler d'un phénomène qui s'est passé cette semaine qui est assez intéressant. La question macro qu'on se pose un peu tout le temps, mais qui il faut se reposer aujourd'hui, c'est la France peut-elle redresser ses finances publiques? Le chiffre de la semaine, c'est 34. Bah oui, c'est pas de l'économie quand même, c'est de l'économie. Ce sont les chefs d'accusation pour lesquels Donald Trump a été reconnu coupable. Quel impact sur les marchés? Zéro. Quel impact sur l'économie et les élections? On va en parler tout à l'heure. En deuxième partie de l'émission, la bourse. La bourse, on a vu qu'elle a été un peu atteinte. Bon, alors, c'est pas le crack hein, non plus. Une petite correction du fait de la hausse des taux d'intérêt à long terme. Est-ce qu'elle est mûre pour une correction? On aura un spécialiste des lunettes roses qui va nous dire si on garde des lunettes roses. La question d'argent, quel est le placement de la semaine? On a vu cette semaine qu'il y avait une ruée sur les fonds en euros d'assurance vie, c'est-à-dire le truc qu'on avait enterré il y a quelques années en disant c'est mort. Est-ce que c'est ça le placement de la semaine? Les gérants vont nous le dire, le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant. Qu'est-ce qu'il faut pour une émission exceptionnelle? Je me suis posé la question ce matin et je me suis dit, bah évidemment, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Je le dis, je le répète, si je devais prendre des cours d'économie, ce serait mon prof, Anne-Sophie Alsif. Je sais pas si je serais un bon élève.
Je ne sais pas.
J'ai pas l'impression que vous avez envie de m'avoir en cours, là.
Non, pas
je vous ai,
trop,
je vous ai tendu la perche plusieurs fois.
Vous avez invité plusieurs fois, mon prof, vous n'êtes pas venu non plus.
Non, c'est vrai. Vous êtes chef économiste de BDO France et professeur d'économie à la Sorbonne. Ça va, la Sorbonne? C'est ouvert, c'est pas bloqué, non?
Non.
Ça va, donc on peut y aller?
Tout à fait.
On peut rentrer?
On peut rentrer pour l'instant.
Quelle couleur de lunettes va-t-il aborder aujourd'hui notre optimiste invétéré Christian Bito, professeur de finance? Allez, c'est que ne révélez rien pour l'instant, ne révélez rien. On aura ça en deuxième partie. Ah oui, ça va.
Non, vous rêvez. La couleur de la cravate. Je n'ai pas chaussé mes célèbres lunettes.
Mais non, ça va pas. Elle nous a toujours dit que tout se passait aux États-Unis. Et ce qui se passe aujourd'hui lui donne grandement raison. Notre statut de la liberté à nous, Virginie Robert. Bonjour. Toujours un plaisir
Bonjour,
de vous avoir. Vous êtes
Merci,
présidente de Constance Associée. Économiste de talent, culturiste, éleveur de chats, barbier à ses heures perdues, Christopher Demby, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet en AM. Et alors, depuis qu'il a changé de boutique, il est... Waouh, le look, là. À chaque fois qu'on voit...
Ben oui, ça avant, vous choque à chaque fois.
Franchement, avant, on rigolait. Il y avait une crête, il y avait des moustaches. Et là, vous avez le look du Jean Bridel, là.
Bah, parfait, oui. C'est tant mieux, alors.
C'est ce qu'on vous demande ou pas?
Oui, on va dire ça.
Et alors, la cravate verte, c'est parce que vous voulez nous faire croire qu'il y a une croissance verte, que ça existe?
Tout à fait, ESG, bien sûr.
Vous y croyez ou pas, la croissance verte?
Bien sûr.
Vous y croyez pas du tout? Vous ne pouvez rien dire, vous n'avez pas le droit de parler.
On n'a rien vu, n'est-ce pas?
Allez, on passe tout de suite à la dette. Puis t'as dansé avec moi, dis-tu t'en rappelles? Et oui, on a dansé, mais est-ce qu'on va continuer à chanter aussi? Petite alerte cette semaine, les États-Unis ont eu plus de mal. Alors, c'est pas le débat qu'il faut relativiser tout ça, à emprunter de l'argent, mais moi, ça m'a beaucoup marqué sur les marchés pour financer la dette. Bon, on en parle depuis des semaines, des mois ici, l'explosion des déficits, l'explosion des dettes freine quand même la baisse des taux d'intérêt. Alors, bien évidemment, on a ce débat, et je suis sûr qu'il y a des économistes ici qui vont nous dire qu'il y a des éléments pour que l'inflation reste élevée, mais une partie de la hausse des taux d'intérêt à long terme est quand même tenue par ce niveau de dette. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du niveau de la dette de pays comme les États-Unis ou la France, Anne-Sophie?
Alors bon, c'est pas les mêmes pays, hein. C'est sûr que les États-Unis, il y a quand même le facteur dollar, donc quand même moins, même si bien sûr on voit que ces dernières années, il y a une augmentation très importante du déficit, hein, depuis le Covid, on peut le voir, hein. C'est vrai qu'on a parlé dans la campagne électorale du décrochage France-États-Unis avec le fameux bipartisme du Mississippi. Ouais. Alors c'est vrai, hein, le chiffre est vrai, mais surtout ce que l'on voit, c'est que aux États-Unis, hein, à chaque fois qu'il y a eu le choc et la crise de 2008 et la crise Covid, les plans de relance ont été vraiment massifs. en termes de volume, mais aussi en termes de durée. Donc, il n'y a jamais eu des relances budgétaires aussi importantes, bien sûr, financées uniquement par de la dette. Ça, plus tous les plans IRA pour essayer de se réindustrialiser, eh bien, ça a eu beaucoup plus de succès que prévu. Donc là aussi, ce sont des déficits qui sont abyssaux pour quand même des résultats, hein, puisqu'on voit que, je me souviens, sur votre plateau, on parlait de la récession aux États-Unis, c'est quand. D'ailleurs, vous disiez non, il n'y en a pas. Et là, on est à quasiment 2,6% de croissance, 1,2 point de plus que la zone euro.
Parce qu'on donc, on attendait la récession.
Tout à fait. Il n'y en a pas et la croissance est énorme. Alors, bien sûr, il y a de la croissance économique. Vous allez me dire, heureusement, quand on a un déficit qui est à quasiment plus de 7% du PIB.
Mais il n'y a pas de limite au déficit. C'est-à-dire qu'on a l'impression... Alors, vous avez l'air de dire, si je traduis ce que vous dites, hein, pour les gens qui comprennent mal comme moi, c'est, vous avez l'air de dire que quand on a une devise comme le dollar, c'est un chèque en blanc.
Alors c'est open bar, d'autant plus que c'est vrai qu'il y a le contexte géopolitique, c'est-à-dire que les États-Unis, on sait dépenses de défense qui vont encore croître, ouais. On sait les problématiques de réindustrialisation.
Il n'y a pas de limite.
Pour l'instant,
à quel moment ça s'arrête? À quel moment? Là, par exemple, c'est une alerte, ça. Quand on a des adjudications, c'est-à-dire pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est chaque semaine, hein, le Trésor américain emprunte de l'argent.
Tout à fait. Je pense que c'est vraiment lié vraiment au taux d'inflation et au fait qu'en effet, sur les anticipations, on s'attendait à avoir un ralentissement.
Mais vous
plus
dites
fort
qu'il y a toujours autant de liquidités.
Donc c'est plus par rapport. Tout à fait. Il faut juste regarder ce qui s'est passé au Covid, hein, par rapport à la crise de 2008 en termes de masse monétaire, M1, M2, M3. Vous connaissez votre cours d'économie par cœur.
Non, j'étais pas à vos cours.
C'est vrai, il fallait venir. Eh bien, on a injecté au niveau mondial, hein, 3 fois plus que pendant la crise de 2008.
Oui, mais là, les banques centrales retirent de la liquidité.
Complètement, mais même si elles retirent et qu'on a eu des hausses des taux, on n'est pas dans les situations qu'on a connues dans les années 80-90. Donc, on est encore très loin du compte.
Christopher Dembick, Anne-Sophie nous dit c'est pas inquiétant pour les États-Unis parce que d'abord, ils produisent de la croissance grâce à ce déficit et qu'ensuite, ils ont le dollar. Pour nous, c'est un peu plus inquiétant parce que nous, on ne produit pas de croissance avec le déficit et on n'a pas le dollar.
Alors oui, effectivement, et surtout côté américain...
Quand je dis nous, c'est la France. Hein.
Bien sûr, oui. Côté américain, quand ils ont du déficit, ils savent systématiquement ensuite le réduire et historiquement, ils l'ont toujours fait. Il y a un autre élément quand même côté américain que j'aimerais juste souligner qui est peut-être structurellement plus inquiétant, c'est que vous avez deux acheteurs historiques de dette des États-Unis, c'est le Japon et la Chine. Le Japon aujourd'hui est vendeur net simplement parce qu'ils essayent de soutenir le yen, ça ne marche pas. C'est conjoncturel, ça. Mais en revanche, la Chine a une vraie stratégie de dédollarisation qui est durable. Voilà. Et donc ça, à un certain stade, ça peut quand même peser, et on le voit sur les marchés, c'est un sujet de long terme pour la dette américaine. Après, vous me direz, en dernier sort, on a toujours la réserve fédérale qui peut intervenir, mais le phénomène de dédollarisation chinois est quand même un élément essentiel. On l'avait vu à une moindre échelle à partir de 2014-2015 en Russie. Ils ont réussi. Ils contournent aujourd'hui le système dollar. Peut-être que la Chine le réussira dans 10 ans. Donc c'est quand même un sujet un peu de long terme.
La Chine se dit qu'elle n'a pas le choix, parce que si un jour elle attaque Taïwan, de toute façon elle va se retrouver dans la situation de la Russie.
Exactement. Et donc on voit vraiment, moi je me suis, dans mes fonctions passées, je travaillais beaucoup en Russie, et je me souviens avoir vu ce phénomène de dédollarisation, et en 2015 à l'époque ça m'interpellait. On comprend après rétrospectivement, et on voit exactement le même sujet aujourd'hui avec la Chine. Donc je voudrais dire, ça ne va pas remettre en cause la capacité des États-Unis de s'endetter, mais en revanche, c'est un État majeur qui se dédollarise et qui peut réussir le système de dédollarisation en l'espace peut-être de 5 à 10 ans, voire un peu plus. Donc c'est un phénomène quand même à prendre en considération. Sur l'aspect français, oui, bon, bien sûr, effectivement, on n'est pas dans la même situation, c'est assez clair. Parce que nous, on a une problématique essentielle. De mon point de vue, avoir du déficit n'est jamais négatif et il y a un faux débat sur le 3%, par exemple. Mais en revanche, il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait.
Jamais négatif avoir du déficit.
Mais en revanche, il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait. C'est la deuxième partie. Et aux États-Unis, effectivement, ils ont une logique qui est très claire. On va avoir une forme de protectionnisme éducateur, qu'on finance, qu'on surfinance même, et qui nous permet de créer des industries. Aujourd'hui, c'est l'IRA, peut-être que demain, ça peut être, moi, un sujet qui paraît intéressant, c'est que pour tout ce qui est transition, vous avez besoin de métaux, c'est très difficile de les avoir, peut-être que demain, ce sera une industrie du recyclage qui sera complètement subventionnée dans un premier temps. En Europe, en France notamment, malheureusement, on n'a pas cette logique-là.
On fait de la dépense et pas de l'investissement.
On fait de la dépense, et vous avez un débat dans le cadre des élections européennes, qui est un fameux pacte de compétitivité, et quand vous interrogez tous les États européens, c'est un peu comme si vous avez 3 économistes dans la pièce, vous avez 4 avis différents sur ce que ça doit être. Et malheureusement, c'est une complète fuite en avant, et ça, bien sûr, à un certain stade, ça va être compliqué. Aujourd'hui, on arrive à se financer. On le voit, même les investisseurs japonais continuent de racheter la dette française, il n'y a pas un sujet à cet égard. Mais à un certain stade...
Et puis on est aidé par le fait que l'Allemagne emprunte de moins en moins.
Exactement. Donc on a une situation qui, a priori, ne devrait pas changer dans l'immédiat. Dans le pire des cas, je reste convaincu aussi qu'on peut avoir la BCE qui interviennent, et il y a bien sûr les clés de répartition, mais c'est une évolution politique plus qu'autre chose. Mais moi, le vrai souci, c'est que le déficit qu'on a, la dette qu'on a, derrière cela, vous n'avez pas suffisamment de croissance. Alors que les États-Unis ont réussi ça en un laps de temps très réduit avec des gains de productivité.
Pour compléter, c'est vraiment très intéressant quand on regarde les chiffres. On parlait du risque de récession. Non. Là, on est à plus de 2,6. Hein, c'est encore le dernier chiffre de l'OCDE. Et quand on regarde la composition de cette croissance, on est à plus de 3,5 sur l'année en glissement à neutre pour l'investissement. Regardez tous les États de la zone euro, c'est pas la consommation. On est en négatif sur l'investissement. C'est-à-dire qu'on n'est pas en ralentissement. Pour cette année, on est en négatif. Donc, c'est pour vraiment dire qu'on arrive à avoir un pseudo croissance autour de 1% juste par rapport à cette fameuse consommation qui nous reste, avec le commerce, voilà, pour l'Allemagne, c'est même pas les exportations qui reprennent, mais c'est les importations qui s'effondrent vu qu'ils n'ont plus de croissance. Mais sur l'investissement, qui est quand même normalement un des piliers de la croissance là, de la zone euro, pas forcément de la France, hein, notamment les pays nordiques, qui sont plus sur le commerce extérieur et l'investissement, on est en négatif cette année, alors que les États-Unis sont à plus 3,5.
Christian Mitot, vous suivez les marchés, vous,
la dette.
Et vous que suivez beaucoup, hein, vous aimez cette de masse monétaire, tout ça, des trucs que je ne comprends pas.
J'adore.
Ça, vous adorez ça.
Et pourtant, je vais encore vous rappeler quelque chose, parce que je ne comprends pas, Marc, le sens de votre question. Allez-y. C'est est-ce qu'on a trop de dettes ? Moi, pour moi, la question, c'est plutôt est-ce qu'on n'a pas assez de dettes ? D'abord, la dette, c'est un niveau global de l'endettement. Et l'endettement mondial des économies a effectivement endetté suite au Covid et au programme de relance de déficit budgétaire. Les dettes des États ont augmenté. Mais quand on regarde la microéconomie et nos entreprises que nous suivons régulièrement, on ne peut pas dire qu'il y ait une augmentation de la dette, c'est-à-dire de l'effet de levier. Alors la dette, ben oui, mais de temps en temps, il faut se substituer, surtout si pendant le Covid, on vous dit, vous arrêtez votre activité économique. Ah oui, mais la dette, ce n'est pas quelque chose à 6 mois, c'est quelque chose qui va s'inscrire sur 5, 10 ans, voire 15 ans pour les endettements aux États-Unis. Donc il n'y a peut-être pas suffisamment de dette, parce que la dette pose problème quand plus personne ne veut en souscrire. À ce moment-là, les taux d'intérêt montent. C'est un véritable drame.
Mais deux secondes. Sur les États-Unis, quand même, le 10 ans, le taux à 10 ans, c'est pas neutre. Hein. Passé de 4,50 à quasiment plus de 4,60. C'est pas rien. Un gros mouvement sur les taux d'intérêt.
Oui, c'est un gros mouvement, il reste. Tout le monde a besoin de dette aujourd'hui parce que les populations vieillissent. On a des besoins d'épargne qui s'investissent en dette. Vous avez parlé des compagnies d'assurance qui collectent
des gens qui prêtent
des tonnes d'argent et qui naturellement sont obligés d'acheter des obligations. Et quand l'État français, vous allez nous dire oui, plus de 3000 milliards de dollars d'endettement de l'État français, mais à 3,1%, c'est une bonne affaire. Ah, l'État français devrait s'endetter plus. L'inflation est à plus de 2%.
Coupez son micro, merci.
Ça ne coûte rien.
Merci, faites-le sortir, appelez la sécurité.
On veut de la croissance.
Virginie.
Oui, mais on veut de la croissance.
Non, mais attendez, attendez. Notre déficit ne génère pas de croissance. Vous ne pouvez pas dire ça. Ah, en France, notre déficit.
Christopher a bien expliqué.
Virginie et Robert.
C'est exactement ce sujet.
Virginie et Robert. Pendant qu'on sort Christian Bitot.
Un chiffre sur les capex, puisqu'on parle des capex.
Mais évidemment. C'est quoi les capex pour les gens qui nous écoutent?
Les capacités d'investissement, et c'est ce que les entreprises annoncent justement dans leur budget. Et c'est important à ne pas confondre avec les recherches et le développement. Hein. C'est un autre poste.
Oh, mais bien sûr, personne
n'avait
confondu.
Vous voyez, sur les GAFAM, d'après vous, c'est combien?
Mais moi, je ne sais pas, parce que vous allez nous le dire.
160 milliards en 2023.
J'aurais dit même plus, moi.
180 milliards de prévus à minima pour 2024. Donc, voilà. Elle est là, l'équation. C'est c'est ce que dit Anne-Sophie.
On n'investit pas assez dans le...
Voilà, exactement.
Allez, on passe tout de suite à la France. Est-ce qu'elle peut redresser ses comptes publics? La Cour des comptes a annoncé que nos comptes sociaux étaient hors contrôle, c'est leur terme. Le millefeuille administratif, on nous l'a annoncé aussi, nous coûterait 7,5 milliards d'euros. Anne-Sophie, alors je sais que vous n'aimez pas qu'on soit trop négatif sur la France, mais moi je vois aucune amélioration du déficit dans les années à venir. Est-ce que nos comptes publics, on peut dire qu'ils sont hors contrôle ?
Alors pas hors contrôle, hein. Là je pense que l'idée de la Cour des comptes, elle est dans son rôle, hein. C'est sûr qu'on est dans le rouge, donc c'est normal qu'elle dise il faut faire quelque chose, on est hors contrôle. Sur les finances publiques, et on l'a dit précédemment, si, là il y a un vrai sujet pour la France. Alors pas plus, en effet, le fait qu'on lève de la dette, etc. Pour l'instant on n'a pas vraiment de problème de stabilité de la dette.
D'accord, donc la dette, vous inquiétez pas, ok.
Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas ça vraiment le sujet. Le sujet, c'est en effet les aspects de souveraineté et aussi les aspects de quelle dette on a. On l'a dit, c'est une dette qui finance pas d'investissement et c'est une dette aussi qui nous rend fragile par rapport à nos partenaires européens. Dès qu'on dit que la France veut essayer de proposer quelque chose avec la nouvelle commission, le grand truc, c'est ah oui, c'est toujours des plans, c'est toujours des défenses, et donc c'est très compliqué d'être crédible par rapport à nos partenaires pour mettre en place des politiques au niveau européen. Donc
déjà,
ça, c'est
la réduction de nos dépenses publiques. Moi, ce que dit Christian me choque, parce que si on emprunte emprunter plus d'argent, on dépensera encore plus d'argent. Moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment, il faut réduire nos dépenses.
Alors, le grand problème,
ce que je pense, c'est qu'on ne les contrôle pas.
Alors, le problème, c'est que l'on pourrait, mais c'est toujours le problème de dire, comme encore on a une croissance basée sur la consommation, qu'est-ce qu'on réduit pour ne pas justement impacter cette consommation? Déjà, les dépenses publiques, on va dire, les plus hautes prélèvements obligatoires, etc., plus de 60%, c'est du revenu. Donc, c'est du revenu aux Français, des aides, etc. Donc, déjà, ça va pas à l'État, aux fonctionnaires, etc. Ça va à vous et moi, voilà, tout le monde, c'est de la redistribution. Ça, c'est énorme par rapport aux autres pays. Bon, voilà, en tout cas, ça va aux citoyens français.
Moi, ça sort plus que ça de bien.
Voilà, bon. Mais bon,
mais je me plains pas, je suis très content.
Voilà,
je dirais pas ça, mais je peux pas me plaindre.
Là, on parle au terme macro. En tout cas, voilà, c'est du revenu. Donc, ça, déjà, c'est
très compliqué. Vous avez dit comme vous et moi. Donc, c'était pas macro.
Bon, pour tout le monde, en tout cas, voilà. Vous avez des enfants, vous utilisez la crèche, vous avez utilisé le service public, vous êtes déjà allé à l'hôpital. Donc, voilà. Vous avez déjà une dette et vous avez utilisé l'argent public. Donc, ça, déjà, c'est une grosse part. Après, qu'est-ce qui reste? Il reste l'État. Quand on regarde l'évolution des finances publiques de l'État, ils ont déjà fait énormément de réductions.
Ah bon?
Donc, après, on voit, regardez les impôts, ce qu'ils ont fait quand même avec l'automisation, c'est énorme en termes de personnes. Vous avez, depuis Sarkozy.
On voit rien.
Alors, le problème, c'est qu'il faut regarder le nombre de fonctionnaires par rapport à la population. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'on est dans, par rapport au pays de l'OCDE, qu'on est dans la fourchette moyenne haute, mais qu'on est toujours à un emploi sur cinq depuis 20 ans. Donc, il n'y a pas eu une explosion du nombre de fonctionnaires ou de la dépense publique par rapport...
On aurait dû avoir une réduction, non?
Alors, non, justement, comme on a ce modèle basé sur la consommation, eh bien, pour les gouvernements
modèle,
et au terme... Ah oui, mais alors Sophie, ça veut dire qu'il faut changer de modèle. Ça veut dire qu'il faut ou faire de l'export. Vous avez compris qu'on est en train de se réindustrialiser, mais bon, c'est pas demain la veille qu'on aura les mêmes impacts.
Ou de l'investissement.
Ou investir. Et là, on revient à notre conversation.
Non, mais justement, continuer à aller dans ce modèle.
Je suis d'accord, mais où investir? Et là, en effet, vous allez me dire, on a le magot des 3 000 milliards qui sont investis dans des choses totalement pas productives. Donc là, il faut faire quelque chose là-dessus. Par contre, on va dire, attention, qu'est-ce que vous faites pour investir dans du risqué dans les entreprises? Alors que vous savez très bien que vous avez le vieillissement de la population et que vous avez une aversion au risque qui est énorme. Vous allez voir votre conseiller bancaire et vous dit, est-ce que vous voulez investir dans le rouge?
Je parlais.
La seconde d'après, vous êtes sorti de l'agence.
Ouais.
Donc, tant que vous aurez en effet ce genre, on va dire, de lien avec le marché financier, comment vous pouvez orienter votre épargne, c'est compliqué. Et puis l'autre élément, c'est qu'on va vous dire, attendez, cette épargne, elle finance quand même la dette française. Donc attention, si on commence à développer des produits d'épargne, moi je suis tout à fait pour, hein, mais c'est souvent ce que nous disent les assureurs ou les banques, et bien il va y avoir un effet d'éviction et donc on va moins financer de la dette. Par contre, là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même une opportunité, on a à peu près 3 points d'épargne en plus depuis le Covid. Là, on pourrait se dire, on a un petit magot, les autres vont pas dire, attention, vous avez financé moins de dettes, moins d'immobilier, on pourrait l'utiliser. Et on voit que les sénateurs se sont saisis de ces questions en disant, peut-être qu'on pourrait flécher cet argent. Ça vous fait rire quand je dis les sénateurs. Bon,
je vois les sénateurs rentrant de leur repas à 4h l'après-midi
se saisir du dossier.
Je vois le geste. Il doit être très lent le geste quand ils saisissent.
Le Sénat fait des excellents rapports d'information que je vous invite à lire.
Des rapports d'information, on en produit des super en France. J'adore.
Très intéressant. Vous avez vu les autres chambres. Et donc, pour comment justement commencer à financer la défense ou d'autres secteurs? Donc, vous voyez que ça commence. Mais le grand problème, c'est qu'en effet, il faudrait un plan massif pour savoir comment orienter cette épargne. Et que là, en effet, on n'y est pas du tout. Parce qu'on veut toujours garder cette épargne
de précaution
pour la dette.
Si notre espoir, c'est le Sénat, je suis quand même assez...
Vous êtes dur.
Allez, Christopher, on va y arriver ou jamais?
Non, franchement. Non, c'est affligeant. Mais d'ailleurs, je suis surpris que vous reveniez avec cette
question. Non, parce que
malheureusement, ça change pas.
Moi, je vois les nouvelles chaque semaine. Je vois des rapports. Je vois la Cour des comptes. Je vois les comptes qui se détériorent. Je vois les chiffres.
Oui,
et franchement, je me dis, c'est insupportable, quoi.
Mais fondamentalement, c'est une fuite en avant parce que, grosso modo, vous avez deux solutions. Soit vous gérez le présent, et c'est à peu près ce qu'on met en avant. Et quand on gère le présent, on aura probablement un projet de loi rectificative et vous avez trois pistes qui sont mises en avant. Rien de très surprenant. On va lutter contre la fraude, on va taxer les riches et on va...
lutter contre les niches fiscales.
Les niches fiscales et les entreprises, bien sûr, qui sont sur la table. Bon, ça, c'est pas très nouveau. Donc, de l'autre côté, soit on a un débat sur quel modèle social on va, c'est-à-dire peut-être probablement un modèle où on contribuent tous un peu plus. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire l'avait évoqué, même s'il a été vite retoqué. Vous voyez, c'est un peu moins redistributif.
Bruno Le Maire. Vous ne pouvez pas citer Bruno.
Non, mais pour une fois que je suis d'accord, le dis.
Ok.
C'est très dur aujourd'hui.
C'est rare d'ailleurs. Vous le notez.
C'est-à-dire lequel Bruno Le Maire? Celui qui critique Bruno Le Maire?
Non, celui qui n'est pas ministre.
Celui qui n'est pas ministre. Voilà. Non, celui-là, il est très bien. Le problème, c'est qu'on a l'autre qui est ministre.
Oui, mais il ne faut pas confondre.
Il ne faut pas les confondre.
Voilà. Et donc, la question fondamentale, c'est quel type de modèle social? Je pense qu'on va me taper sur les doigts en rentrant. Quel type de modèle social on veut au niveau français? Et fondamentalement, personne n'est prêt à aller sur ce sujet.
On n'a pas les moyens de notre modèle social. me demande à quel moment quelqu'un, Anne-Sophie, va avoir le courage de juste dire on n'a pas les moyens de notre modèle social. C'est quand même pas compliqué à dire, quoi.
Mais non, vous pouvez pas le dire, parce que ça veut dire quoi, pas avoir les moyens? On peut dire pareil pour les États-Unis, ils n'ont pas les moyens de leur politique industrielle. Vous pouvez dire pareil.
Ils ont les moyens de leur politique.
Non, ils n'ont pas les moyens.
Si, parce qu'ils ont la puissance. Non, parce qu'ils ont la puissance de créer.
Oui, mais ils ont du déficit, là, vous insurgez.
Oui, mais ils font de l'investissement qui va créer de la croissance. Ça n'a rien à voir.
La problématique, c'était quand même, on est en déficit.
C'est vous qui me l'avez dit. Vous avez dit, il y a une différence entre l'investissement et la dépense.
D'accord, mais là, vous pourrez dire, il y a du déficit. Voilà, ils sont. Dire pareil au Japon en disant ils sont ultra endettés, ils n'ont pas les moyens de leur politique industrielle. Donc dès qu'un État est endetté, vous pouvez dire que vous avez du déficit, ils n'ont pas les moyens de telle ou telle politique.
Mais nous, on n'a pas les problèmes de notre modèle social, parce qu'il ne produit pas de croissance, c'est ce que je suis en train de dire.
Le problème est là, c'est là où, excusez-moi, c'est faux, on a un modèle de social qui crée de la croissance.
Mais par la
le fait de ne pas avoir trop d'inégalités en termes de sécurité, alors vous allez me dire oui, il y a des faits divers, etc., mais en termes de sécurité, vous regardez par rapport à plein d'autres pays, plus vous êtes dans un système où il y a moins d'inégalités et vous avez de la sécurité, mieux c'est pour le climat des affaires et mieux c'est pour le business. Vous adorez de choose France, c'est les investisseurs internationaux. Qu'est-ce qu'ils vous disent en premier quand il s'agit d'aller à Francfort ou à Paris après le Brexit? Ah bah j'aime bien venir en France. Bien sûr, je mange bien, mais aussi quand je vais à l'hôpital, j'en ai pas pour 10 000 euros. Donc ça, bien évidemment, c'est une richesse. Nous, comme on le vit, on l'a, c'est un acquis. Mais quand vous regardez au niveau international, ça l'est. Donc si cette protection sociale crée de la richesse. Le problème, c'est qu'en effet, pas assez, et c'est pour ça qu'il faut faire autre chose, on l'a dit, orienter l'investissement, l'épargne, etc.
Allez, on passe tout de suite, très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, on a pris du retard par le chiffre de la semaine, ça m'a quand même frappé. Ce qui m'a frappé, c'est pas la condamnation historique de Donald Trump, 34 chefs d'accusation, zéro impact, c'est l'impact sur les marchés. Juste, Christian, très rapidement, vous, homme de marché un peu comme moi, quand vous avez vu, c'est un non-event total. C'est-à-dire, je me rappelle l'époque de Clinton, où on était collés à l'histoire tous les jours.
D'abord, la peine n'est pas prononcée, on n'est pas sûr que ça soit de la prison, d'accord, et on sait qu'avec l'appel, bon, ça ne mettra pas...
Une condamnation d'un président, il est condamné.
Ça ne remettra pas les élections en jeu, quel que soit le résultat. Non, ça a rappelé au marché que la Fed se retrouve de plus en plus dans un problème de calendrier. Ouais. Si on a bien, on en reparlera précisément tout à l'heure, si on va bien vers une baisse des taux, quand va-t-elle l'annoncer? Et là, on arrive, sa dernière réunion est le 31 juillet. Ensuite, on est en septembre. Et traditionnellement, une banque centrale n'intervient pas pendant les élections présidentielles. En tout cas, c'est le cas aux États-Unis. Ah non, novembre, ça serait trop juste. Donc, que va-t-elle faire? Ça nous a rappelé ce gros problème qui a apporté de la volatilité sur le marché.
Virginie, vous n'avez pas besoin de baisser les taux.
Virginie, vous qui allez régulièrement aux États-Unis, c'est un non-événement, la condamnation de Trump. Et c'est acquis aujourd'hui? Parce qu'on voit. Alors, quand même, je voulais vous poser la question. Quand vous voyez tous les patrons maintenant de grandes boîtes, plus des patrons de Wall Street, Bill Ackman, Elon Musk, on n'en parle pas, il parle d'une place dans l'administration. Ça vous surprend pas, quoi?
Non. Vous avez vu hier soir à l'annonce, ça a encouragé les supporters de Donald Trump à donner davantage. Et donc, lui, il fait son chemin. Il avance et c'est quelque part, c'est. Voilà,
donc,
c'est
un
modèle.
Trump 2, ça fait pas peur aux entreprises américaines du tout?
Non.
Du tout?
Du tout. Il y a toujours des interrogations, bien sûr, mais. C'est pas le sujet.
Non, c'est pas le sujet, d'accord.
Ah non, c'est pas
le sujet.
Non,
mais c'est intéressant.
Simplement, on pourra se poser la question de. La lecture de la crédibilité du système judiciaire après, parce que lui évidemment il est dans son schéma c'est le complot etc. Et donc si jamais il continue et que c'est non-event et que tout se passe bien, il fait appel après avoir été élu, etc., on pourra se dire finalement peut-être que le système judiciaire pourrait être un petit peu être chahuté et remis en question.
De toute façon, il va le remettre en question. Donc, il l'a dit.
Mais tant que vous remettez pas justement en question les principes fondamentaux du business aux États-Unis, c'est une affaire privée sur du droit plutôt privé. Ça n'influence personne. Et surtout, je pense que pour les entreprises, elles ont compris que dans tous les cas, vous avez une stratégie américaine qui est énoncée d'une manière différente par Biden et Trump, mais qui est America First. Donc c'est du protectionnisme. Il y en a un qui va être un peu plus volubile, bien évidemment, que l'autre, mais il ne va pas utiliser les mêmes outils, mais c'est la même stratégie à la fin et qui est perçue d'ailleurs positivement parce que vous avez énormément de subventions. L'exemple qui est phénoménal, c'est le Texas républicain conservateur qui adopte toutes les stratégies de transition verte tout en faisant de l'énergie fossile parce qu'ils ont énormément de subventions. Et c'est ça le pragmatisme du business dans les affaires aux États-Unis. Tu le côtoies beaucoup plus que moi et je pense que c'est aussi ça un élément qui montre le succès américain. C'est bien sûr, vous avez des subventions, mais ils sont complètement pragmatiques. climatique, ils savent qu'ils arriveront à gérer Trump. Et d'ailleurs, l'équipe économique de Trump travaille sur des sujets qui ne sont pas complètement inintéressants. Par exemple, je vous parlais de dédollarisation à l'égard de la Chine. Vous avez son équipe qui essaye de mettre en place des sanctions contre les pays qui souhaiteraient contourner le dollar si, effectivement, il était élu. Donc, il y a des sujets de fond qui sont aussi essentiels pour l'économie américaine.
Par rapport on se retrouve en deuxième partie de l'émission pour se poser la question de savoir si la bourse est mûre pour une correction. Quel est le placement de la semaine des honnêtes? Vous pourrez parler en deuxième partie. Le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. À tout de suite.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission pour parler de la bourse, des placements de la semaine, du top ou flop, des top 3 des gérants, des actions à acheter ou vendre avec Christopher Dembick et sa cravate verte avec Virginie Rovert en direct des États-Unis. En fait, elle est pas là, hein, c'est un hologramme. La techno, là, c'est encore une boîte dans laquelle vous avez investi. Christian Bito avec sa cravate rose et Anne-Sophie Assif qui se demande pourquoi je déteste tout le monde. Et j'avais une question avant de passer au marché, une seconde. J'ai l'impression qu'on répète surtout moi un peu toujours la même chose. Les États-Unis c'est génial, les investissements, la France c'est naze, la consommation. Et j'ai beaucoup de messages qui me disent oui d'accord, mais vous avez une vision qui est la vision d'un capitaliste. Vous regardez pas, vous avez, c'est pour ça que je reviens vers vous, les inégalités, les choses comme ça. Est-ce qu'on a tort d'être, en tout cas moi, mais même de façon générale, moi c'est peut-être très caricatural, mais est-ce qu'on a tort d'être aussi caricaturaux quand on compare les États-Unis à la France?
Oui, déjà États-Unis-France, il faut plutôt comparer Europe-États-Unis, hein, parce que la France, on peut quand même pas vraiment se comparer. Et puis surtout, hein, et c'est assez intéressant, regardez ce que dit Choose France, parce que là, on a le monde qui nous évalue, donc ça a quand même de la légitimité. Ce qu'ils expliquent en effet, c'est qu'on a des difficultés, on parle de la dette, etc., mais qu'on a quand même énormément d'atouts, et on le dit, hein, pas assez, l'innovation, même si on n'a pas beaucoup d'investissements, on est toujours étonné qu'avec si peu d'investissements, on arrive à avoir autant d'entreprises innovantes. On se dit, on en aurait beaucoup plus, on serait vraiment les rois du monde. Et puis, c'est toujours ce fameux système de protection sociale. Il faut savoir que comme on sait qu'il y aura de plus en plus de chocs exogènes, le fait d'avoir ce système-là, certes, ça ne nous permet pas d'avoir 3-4% de croissance. Non, mais je finis. Dans les crises, ça nous permet de ne pas chuter autant. Non, et comme ça, nous, ça, après, on ne remonte pas comme aux autres, le fait de ne pas chuter, ça nous évite d'avoir des problèmes économiques qui sont beaucoup plus graves et que d'autres pays ont pu
vivre. Si l'attrait de la France, c'est d'attirer des gens qui veulent bénéficier de notre système social qui est largement déficitaire, c'est-à-dire plus on a de gens qu'on soigne, plus on se plante, je veux dire, on est mort.
Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas on attire, c'est juste de dire que notre système de protection sociale, c'est considéré comme un atout d'attractivité parce que derrière, vous avez... Si, d'ailleurs, vous avez...
On attire attractivité.
Non, mais on attire, là, on parle... Je vous dis, quand il y a eu le Brexit, on parlait des traders à Londres. Donc, ce n'est pas des gens qui venaient juste pour aller à l'hôpital. C'est un facteur d'attractivité et surtout de cohésion sociale. Ça ne vous a pas échappé que la cohésion sociale et la cohésion entre les gens au niveau mondial, c'est quand même un petit peu compliqué.
Et vous trouvez que la cohésion sociale en France, quand
non,
on la compare...
Non, ça ne va pas, mais ça va peut-être moins pire qu'ailleurs.
Allez, on passe tout de suite au marché. Intéressant. Le CAC en hausse de près de 6%, le S&P 10%, le Nasdaq 11,5%, Eurostock 10%, le Nikkei 13,7%, Shanghai 3,9%. Contrairement à ce qu'a dit Christian Bito quand même cette semaine, la volatilité dont je m'étonnais mercredi qu'elle était extrêmement basse, on avait atteint un point bas. La volatilité, je vous explique, c'est l'indice de peur et on le mesure par la volatilité sur les actions du S&P 500. Ça s'appelle le VIX, c'est un indicateur, il est traité, on peut l'acheter, on peut le vendre à découvert. Et bien cet indicateur a rebondi de 15% par rapport à des niveaux qui sont très bas. Donc on a quand même une petite ambiance d'interrogation, Christian, je suis pas en train de dire que...
Oui, oui, Marc, il y a eu un coup de chaud cette semaine.
Est-ce que c'est un épiphénomène ou c'est le début d'une correction?
Coup de chauffe cette semaine, et vous l'avez cité dans la première partie, c'est à cause d'une tension sur les taux d'intérêt à long terme. On en reparlera tout à l'heure. Il y a eu quelques mauvaises informations sur l'inflation. Mais je ne pense pas que ça soit remis en cause dans le schéma global. Okay. Donc, toujours positif. C'est pour ça que vous m'avez invité en fin de semaine. Ça devrait aller mieux dans les jours qui viennent.
Je vous ai invité parce que j'avais
envie de vous revoir. Et puis, ça masque, tout de même, il y a eu quelques autres bonnes nouvelles, qui ne sont pas du côté américain pour une fois, qui sont du côté de la Chine. Ouais. Le FMI a revu ses perspectives de croissance, comme les chiffres
chiffres aussi chinois. Et finalement, le moteur chinois qu'on avait oublié depuis un an et demi, deux ans, avec un marché catastrophique.
À raison, on l'avait oublié.
Un
à
immobilier en crise fondamentale. Bah, la Chine se redresse un peu. Le FMI revoit ses perspectives de croissance à plus 5%. Et ça veut dire, et le FMI généralement est assez sévère dans ses prévisions de croissance. C'est toujours en deçà. Qu'en début d'année, au mois d'avril, il a revu ses perspectives de croissance pour les États-Unis. Pas de récession et une croissance surprenante. Plus 2,7%. Ouais. Et maintenant, la Chine, qu'elle ne prévoyait qu'à peine 4,6%, maintenant plus 5%. Donc, de toute façon, on peut dire, c'est plié, quoi que fasse la France avant ou après les élections européennes. Quel que soit son déficit, la croissance mondiale se joue entre les deux gros acteurs, Chine et États-Unis, qui sont en moteur.
Et un peu l'Inde. Ouais,
alors, l'Inde, génial, plus 6,8 dans les prévisions du FMI, pour reprendre et citer la source des chiffres. Oui, mais l'Inde, c'est à peine 3,5-4% du PIB mondial.
À force de dire que c'est à peine la contribution.
On en reparle dans 5 ans. Pour le moment, c'est encore tout petit. Là, moi, je parle du gros camembert, la Chine. Et la Chine a retrouvé son niveau d'exportation. C'est-à-dire que nous continuons à acheter. Il y en a pour un excédent commercial. Chine reste du monde de 880 milliards de dollars. Donc, on a repris cette boucle où, en fait, on finance la désinflation mondiale en achetant des trucs pas chers à la Chine et ça redémarre.
Bon, c'est pas systématiquement une bonne
Allez-y,
nouvelle.
Allez-y, je rappellerai juste que la Chine a aussi battu son record d'exécution cette année.
Merci.
Bonne transition.
Vous avez vu que j'ai changé de.
Ouais, mais raison, quand même. C'est pour ça, parce que sinon vous seriez sorti du plateau.
Complètement, je serais parti rapidement.
Vous seriez parti. Vous savez plus ce qu'il voulait dire.
Mais si.
Non, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle.
C'est pas, oui, exactement, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une économie chinoise qui a deux vitesses, qui exporte très massivement parce qu'elle n'a pas suffisamment de consommation en interne.
Elle exporte sa surcapacité.
Exactement. Et ça vous fait. Vous exportez de la production qui est déflationniste au niveau mondial. Elle pourrait l'exporter aux États-Unis, elle ne le fait pas. Rappelons-le, le 14 mai, l'administration Biden a mis en place de nouvelles mesures protectionnistes. Donc elle va finalement inonder, et là, la locomotive chinoise va inonder le marché européen avec des produits à bas coût. Je ne suis pas sûr et certain. Alors peut-être qu'en termes agrégés, en croissance macro, évidemment, c'est positif. Mais ça crée des frictions commerciales qui vont être certainement aussi négative à un certain stade. Donc la relance chinoise est
commerciale et industrielle,
Exactement. Donc c'est pas finalement si positif que cela d'avoir une Chine qui redémarre uniquement du fait des exportations.
Que nous disent les entreprises américaines
Et les résultats. On est sorti de la période des résultats. Donc les résultats étaient très très bons. Très bons. Mais c'est pas ça qui intéresse le marché, comme vous le savez. C'est ce que disent, ce qu'on prévoit pour les deux prochains trimestres notamment. Et je pense qu'il y avait une espèce de décalage, c'est-à-dire que le consensus des analystes était un peu gourmand, un peu ambitieux sur la période à venir, et donc il y a un réajustement. Et c'est pour ça qu'on a des baisses qui peuvent être sensibles sur des titres qui avaient bien monté. Et donc il y a ce retour de volatilité couplé évidemment avec le sujet. On voit bien que dès qu'il y a une tension sur le 10 ans, les marchés
le taux d'emprunt à 10 ans américain
chahuté. Mais il y a ce réajustement et effectivement les managements sont plutôt et légitimement prudents. Tout va bien, mais il faut arrêter de. On est sorti de la période Covid, on est encore dans cette normalisation, il faut arrêter de penser qu'on va avoir des croissances telles qu'on a pu les avoir pendant 2-3 ans. C'est normal.
De 6, c'est pas mal.
Non, je parle de
des entreprises,
des croissances sur les BPA, enfin les résultats, les bénéfices par action. Et comme je le disais, il y a quand même aussi beaucoup d'investissements. Alors il n'y a pas de dette, effectivement, elles sont très peu endettées, donc ça c'est très
bien.
Voir des trésoreries pléthoriques absolument incroyables. Mais il y a un gros effort d'investissement. Et on sait pourquoi, parce qu'il y a des moteurs derrière. Industriel, on le sait. Donc oui, il y a.
Vous êtes positif sur les marchés américains ?
Oui.
Ouais, toujours.
Toujours, mais moi toujours parce que en fait il y a à faire et il y a forcément cette semaine nous a donné des opportunités ou nous donne des opportunités.
Il n'y a pas de bulle de l'IA.
Il y a des journées
momentum
où il y a des secteurs qui sont massacrés sans discernement. Il faut regarder ce qui peut être intéressant. C'est comme ça qu'on peut revenir sur des sujets.
Il n'y a et pas donc, de bulle de l'intelligence artificielle.
Alors il y a peut-être quelques dossiers qui sont trop chers, bien sûr, Marc. Vous pensez à Nvidia ?
Non, je pense à rien. Moi, je pense pas.
Si. Oui, bien sûr, il y a toujours des dossiers qui sont trop chers. Et il y a des dossiers qui sont peu chers et des dossiers qui sont... Mais nous, on gère sur le prix à l'instant T.
Je comprends.
On gère sur le prix, la valorisation future. parce que le prix, il est fonction, il est légitimé par la croissance future. C'est pas.
Christian, vous êtes toujours optimiste, donc.
Oui, parce que
très optimiste ou pas.
Bah, on va avoir besoin du moteur taux d'intérêt tout de même. Il faut que cette baisse de taux se réalise dans les prochains mois, parce que c'est un paramètre qu'on intègre à des bénéfices qui sont bons, mais effectivement, qui sont pas, ils peuvent pas continuer à monter vers le ciel comme ça. Donc, il y a plusieurs moteurs pour qu'on gagne de l'argent avec des actions. C'est les bénéfices des entreprises, ils sont bons. Mais ça a déjà bien monté depuis le début de l'année. Vous avez cité les performances des grands indices. Ouais. On a besoin du moteur taux d'intérêt. Et là, c'est vrai que cette semaine, il y a eu quelques petits dérapages.
Qui ne vous inquiète pas, parce que vous nous dites, non, il y a beaucoup d'argent.
Espérons qu'il soit conjoncturel et non structurel. Ouais. Ce qui est conjoncturel, c'est que le prix d'un conteneur, je parlais de la Chine, je veux acheter des bidules en Chine, je vais venir un conteneur, c'était redescendu à 2 000 $ pour avoir un conteneur. Mais avec les problèmes géopolitiques, ça, c'est toujours difficile à prévoir. Le passage par la mer de Chine devient délicat, il y a des détours. Le prix d'un conteneur a plus que doublé, a été multiplié par 3. On est à 7 000 $ le conteneur. C'est-à-dire le prix du transport vide.
On a bien compris.
Donc tout ceci, ça va influer sur le coût des matières importées. Le blé, plus 30% à cause de problèmes climatiques en Russie. Aïe. Le cacao, on en a déjà parlé ici,
le cuivre,
plus de 100%.
Enfin bon, c'est vrai,
le
cuivre, les matières premières.
Et manquerait plus que le pétrole. Et ça, c'est facile à regarder pour nous tous, c'est le cours du baril de pétrole et ça dépend du géopolitique.
Bah là, pour l'instant, justement par rapport à ça, on a vu les dernières crises, il n'y a pas eu vraiment d'impact sur le baril. On a vu une
Anne-Sophie, l'inflation, elle va continuer à baisser ou pas?
Oui, alors en Europe, et d'ailleurs c'est quand même bien de le dire, il y a quelques mois, et plus vite qu'anticipé, ça quand même, il faut le dire, dès l'année
mais
prochaine,
mais pas pour
ce
forcément pour la bonne raison.
Pas forcément pour la même
parce
raison.
Parce qu'on n'a pas assez de croissance.
Tout à fait. Bon, après, c'était de l'inflation énergétique. Donc, c'est aussi normal, vu que cette bulle est un peu derrière nous, qu'elle baisse plus rapidement qu'aux États-Unis. Et puis, c'est surtout que ça nous permet l'année prochaine de revenir à cette croissance. Alors, malheureusement, on n'est pas à 2,6 comme les États-Unis. Mais on sera quand même à 1,5. Bah, là, en effet, on voit qu'elle reste quand même plus élevée, notamment, et j'étais assez surprise en regardant le détail, du prix du logement. Alors, c'est vrai que moi, je pensais qu'il y avait plutôt une baisse, plutôt un peu de la bulle depuis le Covid, puisqu'il y a eu des migrations extra-grandes villes, etc. Mais on voit que le prix du logement est encore le premier facteur à la contribution de l'invitation.
Ça baissera ou pas?
Ça baissera, mais moins vite que, en tout cas, anticipé par rapport à ce qu'on a vu en Europe sur les prix de l'énergie. Donc ça va rester encore haut, au moins l'année prochaine et jusqu'en 2026.
On passe au placement de la semaine. J'ai noté quand même ce truc-là, le gros carton pour l'assurance vie. Ça vous décourage pas, vous les gérants, de vous dire que finalement, vous passez des heures à essayer de trouver des très bonnes idées et puis vous avez des masses d'argent. Mais ça, la collecte en fonds en euros d'assurance vie, donc la partie la plus garantie des fonds en euros, a littéralement explosé. C'est-à-dire que les gens se ruent. Alors, il y a eu beaucoup de compagnies d'assurance qui ont lancé des fonds en euros boostés. Donc, on peut avoir du 4,6-4,7% garanti en capital sur un investissement. C'est ça le placement de la semaine ou le placement du mois, Virginie,
moi,
pour vous?
Moi, ça ne sera jamais le placement de la semaine, du mois.
Vous avez zéro, vous avez rien. Vous n'avez pas de contrat d'assurance.
C'est pas la peine de poser la question.
Vous n'avez pas de contrat d'assurance vie. Vous n'avez pas de contrat d'assurance vie avec des fonds en euros.
Il n'y
a pas de fonds en euros.
Non.
D'accord. 4,6%. 4,6% quand l'inflation est à 2,4%.
Ah, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut faire,
Je ne sais pas.
Non, mais si.
Il
n'y
a pas d'intérêt. Moi, je suis aussi dans l'investissement qui a du sens. Enfin, je trouve ça plus passionnant de participer à la croissance d'une entreprise, même française.
Vous êtes américaine.
Que franchement, de financer. D'ailleurs, on ne sait même pas. Vous savez, les fonds en euros, dans les contrats, je vais me faire des ennemis, mais je vous rappelle que quand vous avez un contrat d'assurance vie en France, c'est le bien de la compagnie d'assurance. Ça ne m'intéresse pas. Voilà.
D'accord. Donc, quel est le placement de la semaine qui vous intéresse?
C'est toujours des actions, parce qu'il y a toujours des...
Mais changez un peu.
Non, je suis désolée, je ne changerai pas.
Et donc, les actions américaines?
Non, il y a aussi des actions européennes. On a quelques actions européennes. Oui, absolument. Scandinaves, françaises. Oui, on a quelques françaises.
Ah ouais, qu'est-ce que vous avez en français?
On a pas mal de sociétés dans l'aéronautique. Thalès, ça, franchement, je peux les citer, j'y connais par cœur mes titres. Hein.
Allez-y, m'intéresse.
Écoutez, c'est simple, Hermès, Airbus, Thalès, Safran, un peu de Dassault Systèmes. Qu'est-ce qu'on a
C'est déjà pas mal.
Voilà, c'est ça. Hein.
Christian Bitteau, c'est quoi le placement de la semaine?
C'est une bonne nouvelle, l'assurance vie. Puis on a raison, il ne faut pas confondre. L'assurance vie, c'est juste une enveloppe.
Oui, je parle du fonds en euros de l'assurance vie.
À l'intérieur, on peut faire ce qu'on veut maintenant.
Je parle du fonds en euros de l'assurance vie. Vous avez raison.
Il ne faut pas vouloir un épargnant qui écoute l'actualité géopolitique de dire je prends des placements en taux d'intérêt plus sécuritaire. Les fonds en euros, c'est très pratique. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, pour la bourse, parce que bien sûr, je suis autant passionné que toi et je vois de la croissance qui, là, c'est un bon moment pour les actions. Mais tout cet argent qui s'accumule dans ces placements obligataires, c'est comme aux États-Unis. Et ça, c'est un élément qui explique que ça baisse un peu. Cette semaine, ça a baissé un peu. Mais ça baisse pas beaucoup.
Ouais.
Ça baisse pas beaucoup parce qu'il y a des tonnes de cash accumulées aux États-Unis. Ce sont des centaines de milliards de dollars dans du monétaire.
Le placement de la semaine,
Il faut retourner sur les actions. Et profiter de ces petits à-coups pour enfin commencer à enlever une partie de tout ce qu'on a mis de côté en sécuritaire. Les noix,
on vous sortira jamais
de côté.
J'oublie. Le top ou le flop de la semaine, Anne-Sophie Alsif, à ma droite.
Donc moi, c'était un peu le top, hein. C'était la bonne nouvelle, c'est bien, ça clôture bien nos débats sur l'union des marchés de capitaux. Alors c'est sûr, c'est un sujet qui paraît assez techno, c'est un serpent de mer, ça fait 15 ans qu'on en parle, c'est comme l'objet de la zone euro, je suis d'accord avec vous. Mais quand même, hein, on voit qu'il y a vraiment des avancées même au niveau des pays européens, en disant attention justement, hein, pas d'investissement en action, mais surtout on a une place qui est quand même encore beaucoup trop fragmentée, notamment par rapport aux États-Unis. Il faut quand même rappeler, hein, que la majorité des boîtes qui partent avant pas en Chine, avant aux États-Unis. C'est quand même aux États-Unis qu'on est en concurrence. Donc je trouve que c'est bien, et si ça pouvait être plus présent dans la campagne européenne, ce serait encore mieux. Mais bon, là je rêve.
Ouais, là vous rêvez un peu. Top ou flop de la semaine
pour le flop. Il faut, mais ça nous arrive aussi sur les marchés en gestion.
Oh là là.
C'est, il vaut mieux parfois se taire. Nous avons un ministre de l'économie que je ne citerai surtout pas.
Oh là là.
Christopher, il y a déjà
vous êtes dur.
Qui a déclaré à la radio mardi matin, quand j'ai entendu ça, vraiment ça m'a interpellé, c'était très tôt le matin, l'inflation élevée est derrière nous, on a réussi à gagner la bataille.
C'est vrai.
Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit nous allons gagner la bataille? Parce que ce vendredi matin, l'inflation en zone euro est sortie, alors que tout le monde la voyait baisser, comme il l'annonçait, hop, elle remonte à 2,6%.
Non, mais elle est plus à 6%.
Pour toutes les raisons, que je donne, oui, mais
je suis pas d'accord avec vous. Les
marchés.
Je suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense surtout qu'il a rien fait pour ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a pas le temps d'en parler. Mais l'inflation, elle devait baisser quoi qu'on fasse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des composantes de l'inflation qui ont disparu, elle a baissé. Je vois pas en quoi ce qu'on a fait. C'est pas en dépensant plus d'argent qu'on a fait, on a cassé l'inflation. Virginie Robert.
Moi, c'est beaucoup plus léger. Moi, c'est The Queen Deal. C'est Sony. Et un autre investisseur, qui pour le moment ne le sait pas, qui serait, c'est la rumeur, sur les rangs pour racheter le portefeuille du groupe The Queen pour $1 milliard. Donc le portefeuille, c'est évidemment toutes les chansons,
d'accord,
tout le portefeuille musical et tous les produits dérivés.
Queen,
it's a kind of magic, parce que quand même
le groupe il s'appelle Queen, il s'est jamais appelé The Queen. Hein. Non, je vous dis ça, c'est...
Oui, Queen.
Non, mais c'est... ça reste entre nous.
Oui, mais c'est The Queen Deal.
Ah, ça s'appelle The Queen Deal. D'accord.
Mais oui, voilà.
Et donc, comme vous êtes fan, vous êtes dit...
C'est intéressant parce que c'est comment... Parce que si on regarde aujourd'hui le portefeuille, ce que ça peut générer, effectivement, et ce que peut faire une industrie en investissant et en transformant et en utilisant son savoir-faire et créer de la valeur, je trouve ça passionnant. Voilà.
Vous avez raison.
Si c'est très cher.
C'est passionnant. Si vous nous aviez dit, on aurait mis un petit morceau de Queen. Christopher Dalby.
Oui, it's a kind of magic.
On va passer des goûts musicaux au petit déjeuner. Vous prenez, j'imagine, du jus d'orange au petit déjeuner.
Je
m'en doutais.
Moi, je fais que bouffer le soir. Je fais le contraire.
C'est pas bon.
Exactement le contraire.
Et donc, Christian avait évoqué le prix des matières premières. Je vous donne un exemple très précis. Aujourd'hui, le jus d'orange, juste pour être très clair, quand vous avez votre jus d'orange qui vient sûrement de Floride ou du Brésil, qui arrive au port de Rotterdam, donc du jus d'orange concentré frais, savez-vous combien vous le payez ?
Non.
$6,000 la tonne, c'est l'équivalent par exemple de deux sacs de voyage Louis Vuitton. Donc vous voyez à quel point
chacun ses références. Hein.
On contribue tous beaucoup ici, j'ai comprendre, n'est-ce pas ?
Non, pas moi.
Non, pas vous ?
Pas trop.
Et donc ça vous montre effectivement à quel point aujourd'hui on a quand même cette flambée du prix des matières premières, y compris agricoles, qui est un peu passée sous silence, mais qui est vraiment à surveiller. Et Christian l'avait évoqué, y compris pour le commerce international.
Bon, j'arrête le jus d'orange.
Les eaux épreuves de
ma. Allez, on passe tout de suite au top 3 des gérants, encore des positions. Des performances très positives. Eric Blaine est à 12,3%, William Egan c'est à 10,8%, Pierre Chang est à 10,7%. J'ai fait exprès de speeder un peu parce qu'on m'a dit que je parlais pas assez des valeurs et des portefeuilles, et donc moi j'ai envie d'avoir une musique qui fait peur. Ah ben voilà Queen.
Voilà, je voulais.
Pas mal ou pas?
Bravo.
Très
bien. Bravo.
Avec Johnny Pensé. Pas mal.
Absolument.
Christian Bito, la France vous regarde. Parce que ça ne suffit pas de mettre des lunettes roses ou une cravate rose. Il faut nous donner des conseils. Oui. Donc je vais vous donner votre portefeuille.
On va faire un grand nettoyage de printemps.
Non, non, et vous allez... Alors attendez, vous n'allez pas pouvoir faire ça sans me l'expliquer. Alors, Dassault Aviation.
Dassault Aviation, out.
Pourquoi?
Parce qu'à la place, j'ai envie de mettre Airbus. On se rapproche d'un grand salon où le carnet de commandes est tellement plein qu'il faut même s'intéresser à la pâte à papier tellement ils remplissent leur carnet de commandes. Bah parce qu'il y a les défauts de guerre, Boeing, il y a Airbus, il y a aussi la défense qui compte pour 20%. Ah oui. Donc, Dassault Aviation, out, Airbus.
Et là-dessus, on a des bonnes perspectives. Siemens.
Out, ça fait rien. C'est malheureusement une cyclique qui ne bouge pas. Désolé.
Ah non, voilà. Vous êtes très dur aujourd'hui.
Non, j'ai envie de rattraper.
Microsoft.
Chapeau à Eric Blaine, hein, numéro 1 à plus 12%.
Microsoft.
Chapeau, j'aime beaucoup ses conseils. Microsoft, on garde.
Saint-Gobain.
Saint-Gobain, on garde.
Air Liquide.
On garde.
Stellantis.
On garde.
Ah ouais?
Ah oui, on garde Stellantis, oui.
Pfizer.
Pfizer, non, alors vraiment la pharmacie américaine ou la pharmacie européenne,
c'est vous
ça
qui nous l'avez conseillé,
pas.
Mais
oui, c'est
pas,
une erreur, c'est un poids lourd. On vire, j'ai envie de grimper sur le podium.
Pernod Ricard, la valeur préférée de Christopher Delbecq.
Alors, Pernod Ricard et Emmanuel aussi, je profite de l'absence d'Emmanuel pour enfin oser sans pression dire que je vends Pernod Ricard.
Pourquoi?
C'est un boulet, ça fait rien, malgré de très bons résultats. Hein. Voilà pourquoi aussi, il n'y a pas que les hommes politiques qui peuvent se tromper, c'est on analyse la société, elle est bonne, son truc, les résultats sont bons, et Pernod Ricard fait zéro en bourse. On vire, nettoyage de printemps.
Michelin.
On garde. Ça commence à bouger.
Cayence,
ça c'est le bon coup pour jouer le Japon. Le robot.
Schlumberger,
on garde parce qu'il faut jouer le pétrole. Si le géopolitique va mal, hop, on aura cette valeur-là pour le jouer.
Antasport.
Antasport pour jouer la Chine. D'accord. Les Jeux Olympiques, ça équipe plein de sportifs.
Accord.
Alors Accord, on garde.
LG Electronics.
LG Electronics, mes enfants m'ont dit, mais papa, t'es ringard, on regarde plus la télé. Oui, mais il va y avoir la Coupe du Monde de football, il y a les Jeux Olympiques. Et moi, j'adore vous regarder, Marc, sur un grand écran quand je regarde BFM Business, quand j'ai la chance d'être
et
à
puis,
la télé.
Et puis, je vais vous dire, vos gosses.
Ça a pris 15% si depuis un mois.
Vos gosses, ils vous parlent comme ça. Ils vous
disent, mais papa, t'es ringard. Mais non.
Il faut les mater, ces gosses.
16% depuis pas, la recommandation depuis le mois dernier.
Les enfants qui vous parlent comme ça, non mais envoyez-les-moi, je vais m'en occuper moi. Qu'est-ce qu'on achète?
On va à Airbus, aujourd'hui. Parce que j'ai viré Dassault Aviation, Airbus, qui a aussi le civil qui marche très fort.
Très bien.
Et surtout, alors là, encore une valeur au Nasdaq, Qualcomm. Alors Qualcomm n'a pas autant monté que Nvidia, déjà premier avantage. En termes de valorisation, on est à peu près au même niveau, puisque bien sûr, on touche à l'intelligence artificielle.
On a 2000 fois les bénéfices, 6000 fois le chiffre d'affaires.
Absolument incroyable.
Non, on n'a pas le temps.
Qualcomm va équiper en puce, c'est-à-dire en microprocesseur, tous les ordinateurs portables maintenant, les PC. Mes enfants vont encore me dire qu'on n'utilise plus de PC.
Mais on s'en fout de vos enfants.
Intel, c'est fini, on prend la plus Snapdragon.
Dites-leur, voilà, s'ils nous regardent, on s'en fout de ce que vous pensez.
Dans les Dell, dans les Lenovo.
Allez, Virginie Robert, est-ce que vous m'envoyez une musique qui fait peur? Je suis énervé, là.
Ah bah non, alors.
Amazon.
Je garde.
Walt Disney.
On vend.
Pourquoi?
Parce qu'on rentre une valeur, il ne faut pas trop de valeur.
D'accord.
Il faut diversifier,
CrowdStrike.
On garde.
Facebook.
On garde.
Dolby Laboratories.
On garde.
Vertex.
On garde.
L3 Harris Technologies.
On garde.
Ralph Lauren.
On garde.
Christopher.
Ça, je m'en doutais.
Christopher. Nike.
On garde.
ServiceNow.
On garde.
Zscaler.
On garde.
Starbucks.
Oublié cette semaine, c'était pas mal.
Starbucks.
On garde.
Apple.
On garde. Lululemon. On garde.
Lululemon. Qu'est-ce qu'on achète?
On achète de l'industrie. Alors, de l'industrie dans l'aérospatial.
Enfin.
Bon, j'en ai
non, 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 je plaisante, on plaisante. Ouais.
Donc,
vous fâchez pas.
Alors, c'est une valeur américaine. Hein. Ouais. Alors, si vous êtes monté dans un avion,
oui, ça nous arrive.
Pas, probablement que.
Pas dans les mêmes que vous, pas dans les mêmes que vous. Nous, on est derrière, à côté des toilettes, on n'est pas en première.
Ça fait rien, on a tous les mêmes moteurs sous les ailes.
Ouais, mais nous, on les entend, les moteurs. Quand vous êtes tranquillement devant avec votre champagne, nous, le peuple, on est derrière.
Il y a du champagne en écho maintenant.
Ah,
ouais, c'est du champomy.
Donc, Aomet, H-O-W-M-E-T. C'est un spin-off d'Alcoa.
Ok.
Et c'est une société industrielle, donc c'est 34 milliards de market cap. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font essentiellement, ils adressent donc l'industrie aérospatiale et ils font des pièces de métal, en métal. Et ce sont, ils ont une avancée technique absolument incroyable dans les alliages, dans le travail de l'alliage, essentiellement dans les moteurs, donc les hélices, évidemment, mais aussi la structure pour certains avions de défense. Voilà, c'était une société.
Il y a beaucoup de gens qui aiment la défense au tournoi.
Hein, grosse thématique.
C'est une grosse thématique.
On
est amené à en reparler.
Sophie, ça la désespère.
Beaucoup d'investissements.
Ça vous désespère qu'on dit ça? Non, ça vous...
C'est vrai que c'est un peu désespérant parce que derrière, on voit ce que ça veut dire. Donc, bon.
Bon, en tout cas, sur ces recommandations, merci aux gérants. Merci à tous. Merci à tous nos invités. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve alors. Pour une émission très spéciale, elle n'est pas exceptionnelle la semaine prochaine, elle est très spéciale. C'est une nouvelle série de la battle, des battles de l'argent. Cette fois-ci, ça va faire très très mal. C'est la bourse contre le private equity. Vous m'avez bien entendu, la bourse contre le private equity. Et j'ai annoncé qu'il n'y aurait aucune règle. Ça sera un combat sans pitié jusqu'à que mort s'en suive. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, écoutez-nous en podcast, en replay sur la plateforme BFM et sur toutes les plateformes. Et ça marche toujours aussi bien.